Bonjour, vous écoutez Tsukimi, le podcast pour les amoureux du Japon. Je m'appelle Mathilde Amotte et je suis la fondatrice de la Maison du Mochi. Sur ce podcast, écrit à plusieurs mains avec les membres de l'équipe de la Maison du Mochi, nous partageons notre passion pour le Japon et sa culture, rythmée par la nature et les saisons. Tsukimi est un podcast que nous publions deux fois par mois, où nous suivons sur une année le calendrier traditionnel japonais, en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site lamaisondumochi.fr. Bonne écoute! J'ai découvert Gaëlle Rousseau lorsqu'elle se lançait dans la culture du thé en Normandie juste après le confinement. Puis, lorsqu'elle est partie au printemps dernier faire la récolte du thé dans une ferme japonaise, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je l'invite sur le podcast. Pourquoi s'est-elle lancée dans la culture du thé en France? Comment s'y est-elle prise pour travailler dans une ferme de thé japonaise? Voici quelques-unes des questions que j'ai posées à Gaëlle Rousseau. Bonjour Gaëlle Rousseau.
Bonjour.
Un grand merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Dans un premier temps, pourrais-tu te présenter?
Alors, je suis une nouvelle théécultrice et voyageuse de thé. J'ai décidé de ne pas attendre la retraite avant de vivre de ma passion. Et donc, c'est une nouvelle reconversion professionnelle depuis maintenant 3 ans.
Super. Belle reconversion, en effet, qui va faire rêver plus d'un ou d'une. Quand tu étais petite, que rêvais-tu de faire?
Quand j'étais très jeune, je voulais être cuisinière, chef. Et puis, ma mère trouvait que ce n'était pas un métier où les femmes avaient un potentiel d'avenir, en fait. Et donc, j'ai fait des études de gestion de façon un peu plus traditionnelle.
D'accord. Aujourd'hui, tu t'es convertie dans la culture du thé et tu fais visiter ton domaine de thé aussi aux visiteurs. Mais pour autant, tu as une longue carrière dans un secteur complètement différent, donc celui de la gestion, visiblement. Pourrais-tu nous raconter ton parcours professionnel avant cette reconversion?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait des études de gestion et puis j'ai eu l'occasion de faire un Erasmus pour faire mon MBA. Je l'ai fait en Angleterre. Ensuite, j'ai travaillé aux États-Unis dans une maison d'édition plusieurs mois. Et là, je me suis dit que je n'avais pas envie de rentrer en France. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Donc, je suis retournée en Angleterre pendant 4 ans, où j'ai eu la chance de travailler pour le centre de recherche de Xerox, en lien avec celui de Palo Alto aux États-Unis. Alors, Xerox, c'est ceux qui ont inventé la souris, notamment les écrans.
Oui, c'est une société informatique, quoi.
Oui, c'est ça. Et donc, moi, j'étais sur la partie conseil digital. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le domaine du digital pour les 20 années suivantes.
D'accord. Et donc, tu as occupé différents postes dans le domaine digital?
Donc, après l'Angleterre, je suis rentrée en France, à nouveau chez Xerox. J'ai eu la chance d'intégrer un cabinet de conseil pendant quelques années, puis d'être débauchée pour rentrer chez PSA. Et puis, comme je suis quelqu'un qui aime suivre son instinct, j'ai arrêté pendant quelques années, notamment parce que j'ai fait des enfants, et je suis allée acheter un château en Bourgogne qu'on a restauré avec mon ex-mari pendant plusieurs années. On a arrêté de travailler pour se consacrer à ce projet. J'adore les bâtiments anciens. Et puis là, j'ai décidé de renouer aussi avec un peu la cuisine. Donc j'ai fait une table d'hôte et je me suis mis au vin. J'ai travaillé avec le chef de cave de la plus ancienne maison de Sancerre. On a monté un parcours de formation sur le vin.
Waouh.
Et donc, c'était intéressant parce que j'ai travaillé tous les mécanismes de dégustation qui, aujourd'hui, me servent dans le thé également, oui, puisqu'on a le même palais, la même bouche, les mêmes neurones qui déclenchent, en fait, cette reconnaissance des saveurs.
Super intéressant.
Donc, c'était un prémisse à ce que je fais aujourd'hui et c'était passionnant.
D'accord. Et juste petite parenthèse avant de poursuivre sur ton parcours, mais donc, quels sont les parallèles que l'on peut faire entre le vin et le thé, justement? Quelles sont les papilles qui sont activées par exemple, on a l'umami aussi pour le vin.
On n'a pas l'umami, mais on a le sucré, le salé, l'amer, l'astringence, hein, qui sont ce qu'on va reconnaître. Et puis ensuite, il y a tous les arômes. Alors, ils vont différer, effectivement. Dans le vin, on va retrouver plutôt des notes de fruits comme le cassis, et puis des saveurs beurrées ou du silex, notamment sur les vins de Sancerre. Alors que dans le thé, on va peut-être être sur des notes plus vertes, parfois du végétal ou d'autres types de fruits comme la fleur blanche, le géranium. Donc, mais en fait, fondamentalement, l'exercice qui consiste à entraîner
son palais
et ses récepteurs neuronaux pour reconnaître des saveurs et des arômes sont les mêmes.
Les mêmes, bien sûr. Et pour ce qui est du beurré,
Est-ce que, moi par exemple, je le ressens très fort dans un matcha de dégustation. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi, les notes beurrées dans un thé vert
Oui, les houlongs aussi. Oui, les houlongs aussi. Tu sais, des fois, quand on boit un houlong, on sent qu'on a la bouche tapissée,
ouais.
Là.
Il y a quelque chose de très soyeux, quoi.
Très soyeux, mm. Donc on peut faire un parallèle avec aussi cette sensation-là. Chacun, en fait, avec son histoire, va décrire aussi... Alors après, j'ai eu l'occasion, là, de partir en voyage d'immersion sensorielle avec Karine Baudry, qui est une experte sur... le travail, en fait, sur les arômes.
Bien sûr.
Donc, moi, je suis une novice aussi. Hein, et puis, je pense qu'on apprend toute sa vie. Mais ça se travaille, en fait.
Bien sûr. C'est des capacités qu'il faut affiner et travailler pour être de plus en plus précis. Quoi.
Surtout dans un monde aujourd'hui où on a beaucoup d'exhausteurs de goût et d'arômes artificiels.
Oui.
Et donc, par exemple, la fraise, on a en tête un bonbon bien connu, avec des forts goûts de fraise. Et quand vous goûtez des fois une fraise cueillie dans son jardin, les arômes
ne
sont pas tout à fait les mêmes, plus délicats, plus subtils. Et donc, quand on veut retrouver des arômes comme ça, après, dans le thé... ou dans le vin où c'est plus compliqué parce que vous avez l'alcool en plus, ça veut dire qu'il faut vraiment bien travailler l'identification des saveurs en amont pour pouvoir les retrouver dans différents beuvrages ou même des plats, en fait.
Bien sûr, bien sûr. Mais revenons à ton parcours. Donc, tu as cette carrière dans l'informatique et soudain, le Covid et le confinement qui agit comme un déclencheur pour toi. Tu souhaites te rapprocher de la nature et tu découvres que le thé peut être cultivé en France. Comment es-tu venue alors à ce projet de culture du thé ?
Dans ma petite maison en Normandie, j'avais la chance d'avoir des camélias. Mmh. Et puis pendant le confinement, je me suis dit, mais mince, alors si j'ai des camélias japonica qui poussent, est-ce que le camélia sinensis, qui est en fait le théier, peut pousser aussi ? J'ai décidé d'acheter 300 graines fraîches que j'ai fait pousser dans mon salon.
Et comment tu les as trouvées, ces graines ?
Elles venaient d'un producteur italien et breton.
Ok, donc tu as fait des recherches sur Internet
Oui.
Ok, et tu l'as trouvé comme ça?
Oui.
Excellent.
Et en fait, j'ai eu quasiment 90% de semis.
Ok, donc tout a marché.
Je me suis retrouvée avec 280 bébés théiers dans mon salon. Et les enfants ont dit, maman, c'est pas possible, il faut faire quelque chose.
Oui, ça devait prendre un peu de place quand même.
Un peu. Et du coup, j'ai cherché un terrain, parce que mon jardin n'est pas assez grand. Et là, je me suis retrouvée confrontée à l'accès aux terres agricoles. Mmh. C'est un vrai enjeu. En plus, là où je suis, dans le Calvados, il y a beaucoup de haras, donc peu de terres pour de la culture, en fait.
Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu pour ceux qui sont pas au fait de ces histoires de culture, comment on peut pas cultiver, enfin, acquérir un terrain agricole comme ça? Il faut...
Non, en fait, il faut d'abord être agriculteur, normalement. Et puis, il y a un certain nombre de dispositifs en France pour protéger ces terres agricoles, et notamment la transmission de fermes aux générations suivantes, en fait, pour éviter de morceler aussi les terres agricoles. Donc, et puis, il y a des territoires où il y a plus ou moins de tensions, comme je disais. Donc, il y a des territoires qui sont peu peuplés, où on va trouver facilement du foncier agricole. Et puis, par exemple, là où je suis dans le Calvados, où il y a beaucoup de haras, donc les chevaux, ça demande quand même beaucoup d'espace. Mm-hmm. Donc, il y a moins de terres pour de la culture.
Disponible.
Pour de la culture. Mm. Donc, je me suis rapprochée de la SAFER. Mm-hmm. On a essayé de trouver un terrain, mais c'était compliqué.
Mm-hmm. Tu as toi-même, du coup, un diplôme agricole ?
Alors, non, parce que du coup, j'ai fait plutôt de l'informatique. Bah oui, c'est ça. Dans ma vie.
Parce que c'est la première étape.
Alors, j'ai toujours pas le statut d'agricultrice, mais peu de mes collègues aussi, parce que la théiculture, c'est une nouvelle culture. Oui. Donc, il n'y a pas les référentiels, et bon, donc c'est un peu compliqué. Par contre, j'ai refait une partie de cursus agricole sur les PAM, c'est-à-dire les plantes aromatiques et médicinales. Donc, aujourd'hui, il y a une liste des 148 plantes qu'on a le droit de cultiver en aromatiques et médicinales. Et le thé en fait partie.
D'accord.
Donc aujourd'hui, le thé est identifié comme une plante aromatique. Okay. Donc j'ai refait un cursus agricole dans...
Oui, mais du coup, ça devait rajouter à la difficulté de ne pas avoir de diplôme agricole dans ta quête là, de terrain.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait.
Okay.
Et j'ai eu la chance, du coup, de tomber sur une parcelle de test. Donc on peut trouver, par contre, en France, pour ceux qui veulent se lancer, souvent des zones de test, de culture. Donc là, moi, je suis sur un Komoda, dans un écodomaine, qui est la propriété d'une communauté de communes.
D'accord.
Donc en tout, c'est 60 hectares, et on est plusieurs fermiers à avoir des parcelles sous forme de Komoda donc pas un bail rural, donc c'est moins protecteur sur la durée, mais ça permet de se lancer avec une terre.
D'accord.
Et là, sur Paris, donc j'ai la chance là, d'avoir, d'être lauréate d'un terrain avec Pariculteur, et c'est pareil, c'est un prêt pour 12 ans.
Pour 12 ans.
Pour installer ma culture.
Super. Et là, donc maintenant, tu as deux domaines.
Tout à fait.
C'est magnifique.
Deux fois plus de travail.
Voilà. Et donc, sur lesquels donc, tu as planté tes théiers, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc là, Paris, c'est en cours. Donc je souhaite planter 500 théiers et en Normandie, j'en ai 1000.
Ok.
Et mon sujet, alors il y a plusieurs stratégies, mais mon sujet, c'est plutôt d'encourager soit des gens à planter leur propre jardin de thé et de les accompagner, et puis de travailler avec les agriculteurs qui sont en reconversion. Donc, il y en a un certain nombre aussi quand il y a des filières qui sont plus tendues, comme le sucre par exemple en Normandie, bah, de proposer une culture du Camellia sinensis.
Ok. Et financièrement, pour par exemple les personnes qui nous écouteraient, qui voudraient se lancer dans la culture du thé, pour pouvoir s'installer comme tu l'as fait, il faut prévoir à peu près quel budget. C'est très variable, j'imagine, entre, par exemple, le fait qu'on, si on achète un terrain ou si on devient locataire. Mais mettons, on est locataire, on n'achète pas un terrain. C'est à peu près quel budget qu'il faut prévoir pour planter ses théiers, faire une formation. Qu'est-ce que toi, tu à peu près, si c'est pas trop indiscret,
non, non.
Tu as pu...
Bon, alors, faut savoir que comme tout modèle agricole, et notamment des modèles de petites fermes agricoles, hein, c'est pas là où on va devenir millionnaire. Hein.
Oui.
C'est des modèles économiques où on est passionné,
oui.
Et on va retirer des revenus pas à la hauteur du travail qu'on fournit. Moi, c'est vraiment ça, entre mon ancien travail où j'avais un revenu correct et aujourd'hui, le nombre de temps que je passe dans le jardin pour quasiment pas de revenus aujourd'hui. Voilà. Donc ça, on a ça en tête quand on se lance dans l'agriculture.
Il faut avoir ça en tête, en effet. Après, on est nourri d'une autre manière, évidemment. Sinon, personne ne le ferait, mais il faut le savoir.
D'ailleurs, dans les théiculteurs qui s'installent, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens en reconversion qui ont pu avoir une première carrière professionnelle,
oui.
Un peu d'argent de côté pour se lancer.
Okay.
Et pour répondre plus précisément à ta question, le camélia, c'est une plante qui est assez chère.
Oui.
Hein, et c'est pas comme du maraîchage. C'est-à-dire,
d'accord.
Quand on fait un semis de tomates, avec une petite graine, et dans l'année, en fait, on a une récolte de tomates. Le camélia, on va les planter après 2 ans en serre. Donc déjà, si on fait ses semis soi-même, il faut compter 18 mois de serre.
Donc toi, tu les as gardés pendant 18 mois dans ta maison ?
Avant de les planter, oui. Enfin, j'ai acheté une petite serre,
d'accord,
puis je l'ai mis dans une serre dans le terrain où j'étais.
D'accord.
Et après, sinon j'ai acheté aussi des plants déjà prêts à planter.
Okay.
Et après, il faut encore attendre 3 ans pour avoir des vraies récoltes.
Okay.
Donc ça veut dire que pendant 5 ans,
Pas
de revenus sur sa récolte. Et comme je le disais, le camélia, c'est un arbre assez cher. Hein. Il faut que vous mettez en tête l'idée de faire un verger de pommes, par exemple, ou une vigne. Donc vous allez acheter des pieds de vigne ou des pommiers. Donc on n'est pas du tout sur le même budget que d'acheter des graines pour faire des tomates, en fait.
Oui.
Voilà,
oui.
Donc si on est encore plus précis, quand vous l'achetez comme ça, moi quand je vends un théier, je vends ça 15 euros.
15 euros, d'accord.
Si vous achetez 1000 théiers à un professionnel, vous allez peut-être les payer 5-6 euros.
D'accord.
Donc ça vous donne une idée de l'investissement en fonction du nombre de théiers que vous voulez mettre.
Sachant qu'il faut attendre 3 ans avant de pouvoir récolter, c'est ça ?
Oui, moi j'ai fait des petites... On peut faire des petites récoltes, hein,
oui.
Mais à maturité, c'est 3-5 ans avant
3-5
de
ans.
Vraiment pouvoir faire des grosses récoltes.
Et donc toi, tu as fait des premières grosses récoltes ou c'est pas encore le moment ?
Ah, cette année-là, c'était formidable.
Ah,
alors,
okay.
Pas pour les touristes qui sont passés en Normandie,
ah bon ?
Mais on a eu de la chaleur et de la pluie.
Okay.
Alors le théier, il adore l'humidité,
ouais.
Et la chaleur.
Donc il est
combiné,
très...
voilà.
Ouais.
Et
donc,
souvent,
souvent
le problème, c'est les chaleurs sèches,
oui.
En France. Et ça, il n'aime pas du tout le vent et le fait que ce soit sec. Donc cette année en Normandie, c'était idéal.
C'était bien. Ouais.
Donc beaucoup de récoltes, je suis très contente.
Et c'est pour ça que les théiers, donc une implantation en France, il ne faudrait pas choisir le sud-est de la France, mais plus la Bretagne, la Normandie et puis le sud-ouest éventuellement.
Bah, c'est ce qu'on voit naturellement aujourd'hui, hein, c'est une sorte d'arc atlantique là,
oui.
De la Normandie, la Bretagne, le Pays Basque. Il y en a dans les Cévennes, j'ai un collègue,
d'accord.
Qui est aussi en Bourgogne.
En Bourgogne, après, ça paraît plus
bah, il est près
périlleux.
Du Morvan.
Okay.
Alors le Morvan, c'est une montagne. Hein.
Donc il récolte la pluie
c'est
du
ça.
Morvan.
Donc okay. Si vous êtes aussi en hauteur, vous pouvez avoir un climat plus humide et plus frais. Après, vous savez, aujourd'hui, je fais partie de l'Association européenne des producteurs de thé. Il y a par exemple 9 jardins en Écosse. des jardins en Suisse, aux Pays-Bas, en Italie, au Portugal, en Allemagne. Mm. C'est pas nécessairement des régions auxquelles on associait la culture du thé.
Non, c'est sûr. D'un point de vue historique, d'ailleurs, qui est le premier en France à avoir cultivé un thé pour prêt à être récolté dans cette logique, pas juste pour le plaisir, dans un jardin particulier?
Je pense qu'il y a deux personnes qui sont un peu précurseurs, notamment Denis Mazerolles, qui est en Bretagne, qui sa femme est chinoise, Weizi. Donc, quand il était jeune étudiant, il est parti là-bas et il a été, je pense, un des premiers à ramener des théiers qu'il a plantés dans son jardin. Donc, il a la chance d'avoir un joli jardin qui a déjà plusieurs années.
Donc là, c'est quelqu'un qui est un contemporain. C'est pas très ancien.
Oui. Après, je pense qu'il y a des jardins botaniques dans lesquels il y a dû avoir des essais.
Oui.
Mais
qui n'ont pas donné une culture, parce que c'est très récent aujourd'hui, la culture du thé en Europe, en effet.
Oui, tout à fait.
Moi, j'en ai jamais acheté. Je connais en dehors de toi un autre. Enfin, j'entends parler de pas mal de domaines, mais je ne vois pas beaucoup de thé français encore sur le marché.
Non. De toute façon, les volumes sont quand même assez bas. Ouais. Non, par contre, au Portugal, parce que dans les personnes qui ont voyagé, qui ont fait la route du thé au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, pour s'intéresser à cette culture, vous avez les Anglais, les Hollandais et les Portugais. Mm-hmm. Et donc, les plantations du Portugal doivent dater de 1800 et quelques, du 19e siècle. Donc, je pense qu'en Europe, ce sont les plus anciens jardins.
D'accord.
Et après, en France, on a aussi l'île de la Réunion, où là, il y a aussi un jardin qui est très ancien.
D'accord.
Voilà. Mais c'est...
Et avec des thés qui étaient détaillés, du coup, qui étaient cultivés pour la production de thé.
Oui, tout à fait.
Ouais. Ok. Ah oui. Et donc, tu avais parlé donc, de deux personnes, Denis Mazerolles et d'une autre personne, du coup
Alors, il y a une personne qui est très connue sur les camélias.
Oui.
Et donc, c'est Michel Thévaux. D'accord. Son jardin est moins ancien, mais c'est vrai qu'il a toujours été passionné par les camélias, dont le camélia sinensis pour le thé. Mmh. Et qui a aussi un des jardins les plus anciens en France, en France métropole, j'entends.
Oui, oui, bien sûr. Et donc, toi, comment t'es-tu formée à la culture de thé? Comment tu es passée de cette passion que tu avais à l'expertise pour pouvoir faire pousser un jardin?
Comme tu peux l'évoquer, il n'y a pas cette tradition de la culture du thé en France. Mmh. Et donc, c'est de la lecture.
D'accord.
Des recherches, des rencontres de producteurs. Alors, comme j'étais dans la période Covid, ça n'a pas été facile.
Bah oui.
Mais je suis allée voir mes collègues, notamment en Italie. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé de Paolo. Paolo, il a aussi un jardin qui est magnifique, le long du lac Majeur, et qui est installé depuis plusieurs années aussi.
D'accord. Et donc, je pourrais te demander son nom complet. Si tu ne l'as pas en tête. Je te le redemanderai.
C'est son fils, Alessandro, qui maintenant a repris.
Ok.
C'est Campagna del Lago, la société. Et lui, il vient d'une famille d'horticulteurs. Donc,
d'accord.
Il a à côté... il connaît bien les plantes, du coup.
Mm.
Et il est passionnant, Paolo, parce que ça a été... Dans sa vie, il a fait plein de choses. Et quand il était jeune, c'était l'assistant de Marguerite Yourcenar à la fin de sa vie aux États-Unis.
Oui, c'est inattendu.
C'est inattendu. Du coup, il parle français. Il aime la littérature française. D'accord. Donc, c'est vraiment un personnage très touchant et très accueillant.
Et il fait visiter son jardin?
Tout à fait. Moi, j'y suis allée, je vais tout vous dire. J'y suis allée, j'avais pris contact avec lui en disant, écoute, j'aimerais venir voir ton jardin. Il m'avait dit, tu peux passer me voir, effectivement. Donc, je suis allée à sa pépinière. Et puis, il y a eu un bon feeling. Et il m'a dit, écoute, viens à la maison, tu dors une semaine.
Wow.
On va passer du temps ensemble et tout ça. Donc,
trop
donc
sympa.
J'ai eu l'occasion d'aller dans sa magnifique maison sur le lac Majeur. Et vraiment, il a été très, très... accueillant et puis de partager aussi ses connaissances sur le thé et donc de se poser cette question d'ouvrir son jardin à des visiteurs, et je crois que c'est ce qu'il a fait. Et il a monté un partenariat avec une grande marque de thé italienne.
D'accord.
Et donc je crois qu'ils sont un peu le fournisseur officiel de cette marque-là.
D'accord.
Parce que du coup, c'est très grand. Hein,
c'est très grand, ouais.
Je sais pas, je crois qu'il doit faire 40 kilos au moins de thé. Oui. Donc, oui.
40 kilos de thé par an?
Oui. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises parce qu'on s'est vu il y a quelques années maintenant et c'est son fils qui reprend. Mais en tout cas, ils arrivent à avoir un volume.
Oui, parce que moi, là, comme ça, 40 kilos, ça ne me paraît pas beaucoup.
Mais finalement, sachant que vous multipliez par 4 par rapport aux feuilles fraîches.
Oui.
Donc, ça veut dire effectivement, il faut 432, 350 kilos de feuilles fraîches récoltées. Et après, aujourd'hui, il n'avait pas une organisation optimale par rapport à cette culture. Parce que vous savez que vous pouvez faire plusieurs récoltes.
Oui.
Hein, entre le mois de, ça dépend à peu près d'où vous êtes, mais d'avril, mai, jusqu'à, cette année on a eu un mois d'octobre tellement doux, donc jusqu'à fin octobre, on va pouvoir faire 3-4 récoltes. Et du coup, par exemple, moi j'avais visité des jardins au Japon, où ils faisaient qu'une seule, que la récolte de printemps, parce que vraiment, et notamment c'était le premier jardin de thé du Japon.
D'accord.
Donc ils faisaient qu'une récolte par an.
Oui.
Donc après, ça dépend de ce que vous voulez faire.
C'est pratique, ouais.
Et après, je ne sais pas si Paolo, c'est que des cueillettes à la main ou s'il a mécanisé un petit peu.
C'est mécanisé, oui.
C'est vrai que moi, dans la ferme où j'étais au Japon, on pouvait faire 400 kilos de feuilles en une demi-matinée, mais on était semi-automatique.
Oui.
Donc, on utilise une sorte de tailleuse. Donc, on est 3, 2 qui tiennent la tailleuse et puis une personne qui monte et qui descend les sacs de thé plein. Donc, à 3, on peut faire les jardins. Là, je reviens d'Inde et dans la ferme où j'étais... il y avait à peu près 300 à 400 personnes de cueilleuses manuelles pour des jardins pas si grands que ça, enfin une centaine d'hectares quand même, mais c'est hallucinant la différence. Quoi.
C'est différent, ouais. Oui. Mais donc on va partir sur le thé justement, la culture du thé au Japon, puisque tu décides au printemps 2023 de partir au Japon pour participer pendant plusieurs mois, si je me trompe pas, tu vas me confirmer ça, à la récolte du thé. Pourquoi le choix du Japon parmi les différents pays de thé ?
Parce que j'avais très envie de découvrir le Japon depuis toujours. C'est vrai que c'est une culture qui nous attire, nous, Européens, enfin Français, de par son esthétisme. Et le thé, moi j'adore les gyokuro et cette saveur particulière, umami. Donc c'est sûr que si j'avais eu un premier pays à choisir pour un grand voyage de thé, ça a été le Japon. Il venait juste d'ouvrir après le Covid, donc j'étais...
Au taquet,
voilà. Et comment j'ai trouvé...
Pardon. Oui, comment où se situait la ferme où tu as été et comment tu as fait pour y aller Parce que c'est pas facile au Japon, hein, on le sait.
oui, donc c'est des rencontres. Okay. Il se trouve que l'entreprise Daman, frère, qui est une grande maison de thé en France, m'avait contactée pour mettre en place un jardin de thé dans leur usine, dans le cadre de leur démarche RSE. Et j'ai fait pas mal d'animations avec eux. Et puis, j'ai rencontré un jeune, là, qui avait fait cette expérience de vivre dans une ferme de thé au Japon. Et donc, il m'a dit, mais écoute, contacte-les, tu verras, c'est assez facile d'y aller. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un dossier, on a des entretiens par visio. Sur la première vague, je n'ai pas été sélectionnée, ce qui était plutôt bien parce que c'était sur la période d'hiver, il y a moins de récoltes. Et donc, j'ai refait une deuxième session de sélection avec des entretiens, tout ça. Et là, ils m'ont accepté.
D'accord.
Donc, j'étais ravie. Je pense que je devais être la plus vieille stagiaire qu'ils aient jamais reçue. Mais voilà. Et je dois avouer, j'étais très fière de moi parce que c'est ultra physique.
Ah oui.
C'est quand même des métiers agricoles. C'est dans les montagnes très pentues. Et j'ai tenu les 3 mois. Et voilà.
Donc, c'est 3 mois que tu es partie.
C'est ça.
Oh, oui,
apporter des sacs de thé de plusieurs kilos sur le dos, descendre la montagne. Enfin, vraiment, c'est très physique.
Bah, tu vas nous raconter ça. Mais juste avant, tu pourrais nous dire où se situe la ferme, du coup, où tu as été ?
Alors, c'est à Wazuka. Wazuka, ça fait partie du Kansai, c'est-à-dire la région de Kyoto.
Oui.
Wazuka, c'est un village de 3500 habitants et vous avez 300 producteurs de thé.
Okay.
Donc, c'est le village qui fait du thé dans la région du Kansai. C'est à peu près à 1 heure de Uji.
Uji, ouais.
1 heure et quart de Kyoto. Et c'est proche de Nara aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu.
Oui, tout ça, c'est à une demi-heure de train entre Osaka, Kyoto, Nara.
Voilà, Osaka, un petit peu plus loin, c'est à peu près à 1 heure. Oui, c'est ça. Entre
Osaka et Kyoto, c'est une demi-heure de train.
Oui, mais alors ce qu'il y a, c'est que Wazuka, il faut prendre d'abord un bus pour aller
sûr.
À la gare. Pour aller prendre un train,
bien
pour
sûr.
Faire un changement de train, voilà.
Ouais.
Donc c'est vrai que je parle en trajet de train, mais peut-être pas à vol d'oiseau.
Oui, bien sûr. Ok, donc à Wazuka, tu arrives, donc pour 3 mois de récolte, tu arrives à quelle période donc ?
J'arrive début mars.
Début mars, d'accord.
Fin février, début mars. Oui.
Et comment tu es accueillie du coup ? Où est-ce que tu dors ?
Alors, on dort sur la ferme. Donc, il y a une maison exprès pour nous recevoir. Alors, par terre. Hein, donc, oui. J'ai fait le tatami par terre pendant 3 mois. D'accord. C'est une expérience.
Et donc, il n'y a pas de futon? T'as pas dormi sur un futon?
Au début, j'en avais pas. Et puis après, ils m'ont mis un tatami.
D'accord.
Et après, un mini matelas. Enfin, bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a, nous. Hein. Et là, on apprécie le confort quand on rentre. Donc, c'est assez dur, mais on s'y fait.
Surtout au bout de quelques journées, j'imagine que tu dors beaucoup mieux, étant oui, donné la fatigue physique.
Oui, c'est ça, voilà. C'est clair. Mais... Et puis, on vit par terre. Enfin, ça, c'est vraiment... Mais ça, j'ai beaucoup aimé de vivre à même le sol. Et il faut des genoux hein, pour vivre au Japon.
Bah, c'est clair.
Parce que dans la salle à manger, c'est une table basse, voilà. En plus, dans la ferme, c'est une ferme qui reçoit beaucoup de touristes du monde entier et on propose des tea tours qui sont faits en anglais. Et c'est vrai que les Japonais parlent pas aussi bien anglais que moi je l'imaginais en venant.
Non, ils parlent même très mal anglais.
Oui, c'est ça, voilà. Et donc, en fait, on participe beaucoup au tea tour. Et ça, j'ai adoré... transmettre le savoir des thés japonais, de la culture du thé japonais à tous ces touristes du monde entier. Donc, et là, on est dans une maison aussi traditionnelle sur les tatamis. Alors, ce n'est pas un chanoyu, ce n'est pas une cérémonie du thé. Mmh. C'est plus un chado, quelque chose d'un peu d'informel, parce qu'on est des fermiers. Mais on passe 4 heures ensemble à déguster une dizaine de thés et puis à expliquer les façons de le préparer.
Eh ben, est-ce que je pourrais te demander... les coordonnées pour que les personnes qui nous écoutent, qui sont en visite, puissent venir visiter justement cette ferme.
Ah,
si c'est ouvert aux visiteurs, tout ça c'est fait. Super précieux comme
c'est
comme
Obubu Tea Farm. Alors Obubu, parce que en ancien dialecte, Bubu ça veut dire thé dans la région de Kyoto.
Ok. Ben, je te demanderai les coordonnées puis on le mettra dans l'article dédié à ton épisode.
Je serai ravie.
Ouais. Ah non, c'est super parce que c'est assez rare au Japon de pouvoir faire des petits tours comme ça.
Oui, alors en fait on fait de la dégustation de thé, mais on les emmène aussi dans les montagnes voir les plantations.
Super.
Et comme tu le dis, effectivement, c'est pas toujours le cas au Japon.
Non, c'est pas facile de rendre visite à des exploitations, je le sais d'expérience. pourrais-tu me raconter une journée type de récolte du thé, du coup ?
Donc la récolte, elle commence le matin, on se donne rendez-vous à 8h. Donc chacun cuisine pour soi dans la ferme, donc on se prépare son petit déjeuner. Et puis donc à 8h, on prend les voitures et on monte dans la montagne, à peu près une demi-heure de voiture pour monter tout en haut. Le panorama est magnifique. Mais je vous avoue que c'était assez chaud de monter là-haut. Hein. C'est des petits ponts.
Les voitures sont toutes petites aussi.
Oui, c'est des toutes petites voitures. Et moi, on m'avait dit, t'as le permis, tu vas conduire. Franchement, ça fait 30 ans que je conduis, mais là, je pouvais pas. Hein. C'était vraiment trop dangereux pour moi. Je ne sais pas comment ils arrivent à manœuvrer. Donc, on arrive là-haut. On met nos chaussures japonaises. Je n'ai plus le nom en tête. Qui nous permet de marcher comme des cabris dans la montagne parce que c'est assez pentu.
D'accord.
Qui ressemble, vous savez, où il y avait un espace pour le pouce.
Pour le gros doigt de pied.
J'ai plus le nom en tête.
Ok, et qui remonte à la cheville, c'est ça ?
C'est ça.
Et donc c'est vraiment pratique ?
Oui. Moi, je m'en suis acheté plein de paires, donc je mettais ça. Et puis, et on se couvre bien, par contre, parce que c'est quand même un métier agricole et donc il y a pas mal de serpents venimineux, des mille-pattes venimeux. Et ma collègue brésilienne s'est fait mordre à travers son pantalon par un serpent. Et donc, elle a passé 2 jours aux urgences à l'hôpital.
Aïe.
Et comme son pantalon était assez épais, il n'y a pas eu de problème. Mais même quand il fait chaud, on est couvert.
On ne se découvre pas.
Voilà. La tête, les bras, le pantalon, on n'y va pas en short et en t-shirt. Ce n'est pas non plus un camp de vacances. Quoi.
Oui, et ce fameux mille-pattes, en effet, j'en ai entendu parler, dont la morsure fait vraiment très mal.
Oui. Ah ben, j'en ai vu 2.
Ok.
Donc un jour, on était sur les tatamis en train de déguster des thés entre nous. Parce que ça, j'ai bu du thé. Hein. et il était là et je ne savais pas. Et il y a un des membres du staff qui a dit « Attention, attention !» Et tout le monde s'est levé et on a évacué le mille-pattes. Enfin voilà, il n'avait pas l'air si inoffensif pour moi. Enfin, c'est gros, mais vraiment, ils font attention. Et puis un autre jour, on était dans notre salle de salle à manger où il y avait aussi un poste de télé tranquille. Et puis il y en a un qui, à un moment donné, a senti qu'il y avait quelque chose qui montait sur son buste. C'était le fameux mille-pattes aussi.
Ah là 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 là.
Il l'a balancé dans la pièce. Et là, on était tous là. Ah ! Donc on ne l'a pas retrouvé, comme on dort par terre quand même.
Ah oui.
C'était une nuit un peu stressante. Voilà.
Mais... D'accord. Bon, bah oui, c'est bon à savoir. Revenons du coup à la journée. Vous êtes montée dans les théiers et vous lancez votre journée.
On peut récolter à peu près 400 kilos de feuilles.
Donc c'est toujours avec cette machine, comme tu l'expliquais un peu plus tôt.
Oui, une sorte de tailleuse de coupe haie, mais qui est arrondie et qui va prendre cette jolie forme qu'on apprécie quand on regarde les champs de thé japonais, qui est assez caractéristique. Donc ils sont à la fois dans l'optimisation, parce que c'est un pays qui est assez mécanisé quand même, et puis l'esthétique, parce que c'est très beau. Mm. Donc on fait ces tailles, et puis pendant ce temps, le troisième détache à chaque fois les sacs de thé, les porte sur l'épaule en bas de la colline, pour après les mettre dans le camion.
D'accord.
Donc ça fait, je sais pas moi, on peut ramener une quarantaine de sacs de 10 kilos, voilà. Donc moi j'ai fait des journées où je monte en haut de la montagne, je prends le sac de 10 kilos, je redescends, je remonte en haut de la montagne. Alors ça glisse, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas...
C'est vraiment physique.
Voilà. Et donc ça, on fait ça toute la matinée. Alors on a une pause, on fait des pauses, à 10h on a une pause. Alors là ça a été pour moi assez difficile aussi, parce qu'il me propose des petits snacks. Et donc j'ouvre le petit snack... Et là, c'est des petits poissons frits, entiers, avec les yeux et la tête, qu'on mange avec des amandes. Donc, moi, je n'ai pas pu. Et après, on rentre à midi, on mange, et on repart en début d'après-midi refaire des cueillettes.
Et pour le déjeuner, c'est vous qui préparez aussi ou
c'est chacun faisait ses repas.
Et toi, typiquement, tu te cuisinais quoi ? Tu mangeais local ou tu avais besoin plus de retrouver des saveurs que tu connaissais ?
Non, local, mais après, je t'avoue que c'est pas évident de faire ses courses au Japon.
Oui.
Parce qu'on ne s'y retrouve pas trop avec tous les dashis, tout ça. Moi, donc, c'était quand même des nouilles un dashi.
D'accord.
Ou un œuf, quelques légumes aussi. Alors, c'est une île, hein. Il y a peu de production de fruits et légumes. C'est vrai que c'est ce qui m'a manqué le plus par rapport à mon régime français.
Ouais.
C'est assez cher. Les
pommes, légumes et les fruits, oui.
Voilà, sont souvent emballés individuellement. Oui. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de manger des légumes.
Mm-mm.
Mais le poisson, ça, il y a ce qu'il faut.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Et après avoir mangé, on a une heure pour manger, se faire à manger et manger. Et après, on repart avec les camions, on remonte dans la montagne. On recueille et on revient, il doit être 5 heures.
D'accord.
Là, on fait une pause et après, on processe le thé dans l'usine. Donc,
d'accord.
Et ça peut aller jusqu'à 1, 2, 3 heures du matin.
Ah oui, dis donc.
Le maître de thé, à la fin de la récolte là, de printemps, qui dure quand même 2 mois, il dormait par terre dans l'usine. Il était épuisé. Épuisé.
Ah oui, d'accord.
Donc nous on était 3, donc pour aider, alors vraiment sans me lancer des fleurs, mais sans les stagiaires, l'activité ne pourrait pas tourner.
Oui,
hein,
se
vraiment du staff.
Aussi sur cette
tout à fait.
Sur cette ressource-là.
Ouais. Et donc on faisait pas les journées complètes, mais lui faisait les journées complètes pendant toute la période des first flush en fait, donc c'était épuisant.
Mmh.
L'usine j'adorais. Hein. Moi rester jusqu'à 3h du matin, ça me gêne pas.
Qu'est-ce que tu faisais dans l'usine ?
Eh bien, en fait, on mettait, quand on arrivait à 5 heures, on mettait dans des conteneurs réfrigérés, parce qu'on fait majoritairement du thé vert au Japon. Donc, on ne veut pas que le processus d'oxydation démarre.
Mm-hmm.
Donc, on les mettait dans des grands bacs. Et ensuite, première étape, c'est la cuisson.
Oui.
Donc, on va cuire la feuille de thé pour stopper, l'oxydation. Hein, c'est la fixation enzymatique. Ensuite, donc, moi, je faisais... je passais les feuilles du conteneur... Dans la machine, le steamer, en fait.
Et ça ressemble à quoi, un steamer ?
C'est une sorte de gros appareil de cuisson, mais vous avez une sorte de c'est difficile de le décrire. En plus, j'ai les mots anglais, de tray.
De tuyau ?
Oui, un conveyeur.
D'accord, oui, monte. Un tapis roulant.
Un tapis roulant, voilà. Un tapis roulant qui monte et qui descend, en fait, dans un sorte de four à vapeur.
D'accord.
Qui tourne, et puis c'est très rapide. Hein.
Oui.
Et ensuite, ça ressort de l'autre côté, ça passe dans un tube, et ça va dans les machines pour faire le roulage.
D'accord. Et c'est des machines qui roulent ?
Oui. C'est quand même assez... Alors, je dirais semi-automatisé, parce que ça ressemble vraiment au geste humain.
D'accord.
Et pour avoir fait du thé à la main avec la société de préservation des savoir-faire de Wazuka, c'est vraiment les mêmes gestes. C'était vraiment très impressionnant.
Ok. Et donc comment ça... Parce que donc quand tu dis rouler, les feuilles de thé sont ressemblent à des brindilles. Donc c'est un
needle shape comme ils disent.
Voilà, c'est ça.
Alors il y a plein d'étapes de roulage au Japon. Effectivement, ils sont très précis, et ils souhaitent avoir aussi une jolie forme de feuille de thé autant qu'un goût de qualité.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est très japonais dans la démarche, j'ai trouvé. Donc il y a une première, un premier roulage avec une pression douce, un deuxième roulage avec une pression plus forte, un troisième roulage qui est sous forme arrondie avec une pression encore plus forte.
D'accord.
Ensuite, ces petites boules de thé qui se sont un peu compressées vont dans une autre machine qui les sépare les unes des autres.
D'accord.
Geste qu'on fait à la main quand on les a séparées aussi. Et ensuite, ça va dans des machines de shaping, donc qui vont donner cette forme un peu particulière en forme d'aiguille.
D'aiguille. Mais donc au départ, tu dis que c'était roulé. Les feuilles sont roulées. Elles font des boules, quoi.
Oui, parce que quand vous roulez du thé, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le faire, ça s'agglutine, parce que dedans, il y a des composants qui se libèrent et puis qui vont coller un peu.
D'accord.
Donc en fait, le thé est agglutiné. Mmh. Et donc, si tu veux lui donner une jolie forme d'aiguille. Il faut un petit peu séparer toutes ces feuilles.
Et ensuite, du coup, l'aplatir.
Et en fait, c'est une machine qui aplatit et qui roule.
D'accord.
Et à chaque fois, il y a du chauffage qui est mis dans ces différentes machines à différentes températures.
D'accord.
Et la dernière étape, c'est le séchage. Et donc, à la ferme, on faisait de l'aracha. Donc, l'aracha, ça veut dire thé fermier. Généralement, au Japon, les fermes font ce thé. Et ensuite, ça part dans des grands distributeurs qui vont retravailler le thé. C'est-à-dire qu'ils vont le trier pour faire du calibrage. Et puis, souvent, ils vont aussi le recuire un peu. Et nous, à la ferme, on vendait directement le thé fermier, aracha.
D'accord.
Ça veut dire que vous avez vraiment le terroir et le travail de la ferme, et il n'est pas mélangé avec d'autres thés.
Ok. Et du coup, la racha, ça peut être en sencha, ça peut être...
Nous, on faisait du gyokuro, du sencha, du hojicha, on avait des matcha, voilà.
Ok. Et donc, il s'appelait, par exemple, sencha aracha, c'est ça?
Non, sencha au boubou, petit farm, en fait.
Okay.
C'est-à-dire que la ferme le vend soit en direct à la suite des petits tours, soit sur son site internet.
D'accord. Mais quand tu dis aracha, en fait, ça correspond au type de production qui est fermière. Mais donc, à l'intérieur de cette appellation, il y a donc sencha, gyokuro, etc. C'est ça?
Ah oui, on fait tous les types de thé. C'est juste que c'est la première étape de production qui est la partie faite par la ferme. Donc, tous les fermiers font de l'aracha. Après, ils peuvent décider soit de vendre directement, comme on faisait dans la ferme, soit ils envoient à ces grossistes, d'une certaine façon, qui, eux, vont le calibrer et puis trier les grosses feuilles, les petites feuilles, les moins petites feuilles, et puis donc les regrouper avec d'autres thés, d'autres fermes, et puis ensuite, souvent, refaire une cuisson, et après faire le packaging final.
D'accord. Bon, écoute, absolument passionnant, mais j'imagine que c'était des grandes journées.
Oui. J'ai perdu 5 kilos.
Hein. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est une bonne idée pour ceux qui souhaitent aussi s'alléger. Ça doit être bien intense, en effet. Quelles sont, dis-moi, les idées reçues qui t'ont été confirmées sur la culture du thé au Japon?
Bah, que c'est une culture quand même assez intensive.
Donc ça, c'est une idée reçue que tu avais déjà?
Bah, c'est-à-dire qu'on a cette image de grande plantation.
Mmh.
Donc... Donc oui, en fait, c'est
c'est des grands domaines.
Oui, c'est des grands domaines et puis c'est assez mécanisé. Et là, pendant toute la période là, des récoltes de printemps où j'étais, ça tourne nuit et jour, les usines.
Mmh.
Donc voilà, une culture qui est très importante,
mmh.
Même si elle est en déclin.
D'accord.
Et ça, moi, ce qui m'a le plus surpris, enfin, je n'aurais pas anticipé sur la partie d'après, c'est les champs de thé abandonnés.
Ah oui?
Ouais. Alors, quand je vois le mal que je me donne à essayer de faire un plan jardin de thé ici en France...
Alors qu'au Japon, qui est le pays du thé, de l'excellence du thé, en tout cas, il en a la réputation, il y a des champs qui sont abandonnés. Ah oui, ça paraît surprenant.
Ben en fait, ils ont la même problématique que nous, c'est-à-dire que les jeunes générations ne veulent pas aller dans le monde agricole parce que c'est difficile comme métier. Et donc en France, on a aussi du mal à...
Le même problème, oui.
Voilà, et donc les jeunes, ils veulent aller à Tokyo et travailler plutôt dans le digital que d'être fermier, parce que c'est des métiers durs, on ne gagne pas très bien sa vie. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens très, très âgés travailler dans les fermes. Ça, c'est un rapport aussi très japonais au travail et au temps. Et c'est une notion qui est intéressante pour moi. C'est l'ikigai qui est trouver sa voie.
Mm-hmm.
Et en fait, on peut travailler jusqu'au bout de sa vie tant qu'on fait ce qu'on aime. Finalement, c'est pas une corvée.
C'est allier passion et travail, quoi.
Voilà. Ce qui était très surprenant parce que pendant que j'étais là-bas... En même temps, il y avait les manifestations pour la retraite en France.
Ah oui.
Et donc, c'était effectivement 2 millions du monde qui se... Voilà, je ne sais pas quelle est la bonne, hein, mais les deux sont intéressantes.
Oui, 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 bah, ça dépend de chacun, probablement. Et mais toi, ça ne t'a pas fait peur, justement, de voir cette difficulté de la culture du thé, ces champs abandonnés, le fait que tu te lançais dans une culture qui était difficile, dans une nouvelle voie professionnelle?
Non, j'ai passé beaucoup d'années assises dans un bureau à faire à conceptualiser des projets. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'être dans la terre. Alors, c'est très physique, c'est très dur, mais c'est une thérapie géniale, en fait.
Hein. Ouais. Et parce qu'aujourd'hui, tu es beaucoup dans la terre, c'est ton activité principale de t'occuper d'étayer
Bah oui, là, avec le nouveau jardin à Paris, là, je vais replanter, retourner la terre, préparer les buttes et tout ça, donc oui. Et après, au fil de ces années et de mes expériences, j'ai réorienté mon projet. Mmh. C'est vrai qu'au début, il était 100% agricole, et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de savoir-faire sur la transfo. J'ai découvert au Japon énormément de façons de faire le thé. Mmh. Et ça, c'était vraiment pour moi la découverte. C'est-à-dire qu'en France, on pense qu'il y a du thé vert, du thé noir, un peu de thé blanc, du houlong. Mmh. Et en fait, quand on voyage, on se rend compte qu'il y a des recettes de thé par région, par territoire. Et en fait, il y a beaucoup plus de créativité qu'on peut imaginer dans le thé. Moi, j'ai adoré le Kyobancha, qui est le bancha de Kyoto, qui est complètement différente de ce que j'ai pu voir en termes de fabrication. C'est un deep steaming, donc c'est une cuisson longue pendant une heure. Il n'y a pas de roulage. Et donc, cette créativité, ça m'a vraiment interpellée. Et donc, j'ai décidé de m'orienter sur ces savoir-faire, là, dans mon projet, et sur la tea education, l'éducation au thé, pour que les Français puissent mieux déguster et mieux apprécier ce qu'est le thé. Ben, je pense que c'est important qu'ils comprennent d'où ça vient, quelle est la plante, comment c'est cultivé, comment c'est transformé. Mmh. Et autant on a à peu près cette culture dans le vin en France, hein, on sait à peu près ce qu'est un cépage, on sait ce qu'est une vigne, on imagine un peu les processus de vinification, autant dans le thé...
On n'est pas encore...
On n'y est pas, donc il y a toute une marge d'accompagnement, éducation c'est peut-être un peu fort, mais d'accompagnement à savoir ce qu'est le thé pour mieux l'apprécier et avoir envie d'acheter des thés de meilleure qualité peut-être. Et donc avec ce jardin à Paris, c'est notamment ça, pas de faire que de la culture, on s'en doute, hein, je vais pas nourrir la France avec mon thé, mais en tout cas de faire découvrir aux Parisiens, aux Franciliens, comme je l'ai fait en Normandie depuis 2 ans maintenant, ce que c'est que le thé.
Et donc du coup, il faut aussi, pour pouvoir faire toutes ces sortes de thé, t'équiper, t'outiller de certaines machines, justement, par exemple le steamer.
Alors moi, je fais tout à la main. D'accord. En fait, on peut tout faire à la main.
Ok.
Si jamais, moi j'encourage les gens aussi à planter des tilleuls dans leur jardin. Mm-hmm. J'ai accompagné, par exemple...
Je suis très tentée, personnellement.
Voilà, j'ai accompagné une association de jardiniers à Malakoff. Donc, on a planté des tilleuls dans leur jardin partagé.
D'accord.
Pour faire du thé, alors, il y a différentes recettes, hein, mais si on parle du thé japonais, la cuisson à la vapeur, vous faites ça avec une casserole d'eau chaude, et puis soit un petit panier dans lequel, des fois, vous faites les nems, ou, vous savez, la couscoussière, là, mm-hmm. vous avez... Il y a plein de façons de faire un petit steamer chez soi manuellement, donc c'est mon cas. Après le roulage, vous pouvez rouler sur votre table de cuisine. Alors, le thé, ça prend les odeurs, donc il faut que quelque chose qui soit propre et plutôt dédié au thé. Si vous avez un petit panier en bambou, c'est mieux, mais vous pouvez faire ça sur une petite planche. Et puis après le séchage, vous faites ça dans votre four de cuisine.
D'accord.
Donc moi, l'idée, c'est quand on apprend à faire, même si les gens ne vont pas faire ça tous les jours... Mais après, on a une vision différente de ce qu'est le thé, en fait.
Mmh. Ben, ça pourrait être intéressant que tu nous donnes comme ça une recette de thé vert, mettons, pour faire un sencha. Il faut d'abord le faire cuire à la vapeur pendant combien de temps? Si tu as une poignée...
Ça va être quelques secondes. Hein.
Quelques secondes, ah oui, c'est très,
très rapide. Hein.
Ok. Mais donc à pleine vapeur, pouf, quelques secondes. Mmh. Et puis ensuite, donc, tu parles de l'étape du roulage. C'est
alors voilà. Alors là, si vous voulez faire à la japonaise, il vous faut des bras, hein, parce que on roule très longtemps.
Ah oui.
Mais on peut faire un thé vert qui s'inspire. Enfin voilà. Après, il faut faire des essais, hein, parce que j'ai découvert deux choses. Il y a comprendre comment c'est fabriqué et répliquer un petit peu ces étapes. Et puis après, faire quelque chose qui a du goût, des arômes, de la longueur en bouche. Et ça, c'est pas le même métier.
Oui.
Voilà. Donc, vous pouvez rouler que 20 minutes.
Ça paraît énorme déjà.
C'est déjà très long. Ouais. Et après, les Japonais, ils roulent plutôt 4 heures. Donc,
ah oui. Et quand tu dis rouler, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est vraiment poser la main sur la feuille et puis presser en allant de l'avant pour qu'elle se roule sur elle-même, c'est ça?
C'est ça. En fait, la feuille de camélia, pour ceux qui ont un peu le camélia en tête, ce sont des feuilles très épaisses.
Oui.
Et donc, si vous prenez une feuille de camélia et que vous la mettez dans l'eau, il ne va rien se passer.
Mmh.
Et donc, il faut casser la membrane cellulaire de la feuille pour en fait relever les arômes, qui sont notamment la théanine et les catéchines. Et donc, le roulage permet ça. Donc, plus vous roulez, plus vous allez pouvoir développer des arômes. Après, il faut faire attention à la pression, parce que c'est quand même fragile. Donc, si vous roulez trop fort, vous allez les casser et vous allez avoir des miettes de feuilles.
Mmh.
Donc après, c'est toute la subtilité de, quand on le fait souvent, de ce roulage, de sentir
oui.
la pression qu'il faut mettre. Et le problème principal que j'ai eu aussi au début, c'est qu'au début, on a très peu de récolte.
Mmh.
Donc on a peu de feuilles pour s'entraîner.
Ah,
et
oui.
donc quand on récolte un petit peu, on fait. Et puis après, on attend un mois pour pouvoir récolter un petit peu et se réentraîner. C'est très compliqué, c'est très frustrant parce qu'on aimerait avoir beaucoup de thé et s'entraîner. Donc c'est un long chemin.
Et c'est pour ça que, notamment, tu as été en stage au Japon pour pouvoir acquérir cette expérience
tout à fait.
Qui est très importante. En effet, entre la théorie et l'expérience, c'est là toute la différence. Quoi. Revenons aux idées reçues. Quelles ont, cette fois-ci, quelles sont celles qui n'ont pas tenu quand, de ton expérience là-bas?
Eh bien, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure sur beaucoup de thé, beaucoup de types de thé, les Kyobancha, les Hojicha, les... Et en fait, que le thé, ça ne se limitait pas au thé vert au Japon.
Ah, bien sûr, ouais.
Plein de méthodes de fabrication, donc voilà. Et après, peut-être pour revenir tout à l'heure, je n'avais pas fini, c'est, je pensais que vraiment, en me promenant au Japon, il y aurait des salons de thé partout.
Ouais.
Ce n'est pas du tout le cas.
Non, non.
Les Japonais sont amateurs de café aussi, donc
oui.
ils boivent beaucoup de café. Et donc, quand on est dans des régions comme Uji, même Kyoto, on peut trouver beaucoup de dégustations de thé, mais ce n'est pas à pignon sur rue comme on pourrait l'imaginer...
Bah, disons que même les restaurants, tous les établissements au Japon, je faisais cette réflexion la semaine dernière où j'ai eu la chance d'y aller. C'est à l'inverse de nous, c'est-à-dire que c'est pas ouvert sur l'extérieur, c'est à l'inverse, très caché. Plus c'est traditionnel, plus c'est caché. Et nous, en tant que Européens occidentaux, c'est très compliqué de sauter le pas, puisque pour nous, si c'est caché, ça veut dire qu'on ne veut pas de nous.
C'est ça, c'est ça.
Donc en effet, tout ce qui est salon de thé, c'est hyper intimidant d'y rentrer.
Et il y en a peu, il y en a assez peu. Donc, on va trouver. Alors moi, j'ai dégusté dans les temples. En fait, il ne faut pas hésiter à aller dans les temples. Et souvent, ils vous proposent une expérience du matcha. Donc là, vous êtes là devant un magnifique jardin. Et puis, vous pouvez déguster un matcha. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ça, parce que sinon, c'est assez compliqué de trouver des endroits pour déguster le thé.
Et tu penses à un temple en particulier où tu,
Ah bah oui.
Oui.
Kosanji. Kosanji, c'est au nord de Kyoto. En bus, c'est à peu près une heure de bus du centre de Kyoto. Et en fait, c'est là où le premier jardin de thé a été installé. Par un moine, et ils font une récolte par an. Et en fait, c'est assez surprenant parce que c'est un jardin sauvage qui est issu de graines, du coup. Ce sont des graines qui avaient été amenées de Chine.
D'accord.
Alors qu'aujourd'hui, au Japon, les jardins de thé sont beaucoup des boutures, hein, parce qu'avec des clones qui sont plus performants en termes de récolte. Et donc, c'est un jardin qui n'est pas du tout aligné comme on a l'image de ces jardins de thé, qui est très sauvage. Qui est cueilli que à la main. Et j'ai eu l'occasion de faire cette récolte unique de l'année avec les cueilleuses du temple. Et j'étais ravie, c'était vraiment un vrai bonheur.
Le paradis du thé.
Le paradis du thé. Donc c'est un très beau lieu dans les montagnes. Je vous conseille d'y aller parce que c'est là aussi il y a eu les premières écritures japonaises. Enfin, c'est très connu pour les Japonais parce qu'en termes d'histoire de l'écriture japonaise...
Qui vient de Chine aussi, donc taillé et écriture sont arrivés en même temps peut-être.
Voilà.
Okay.
Et puis vous pouvez déguster un matcha dans le somptueux temple et son jardin donc, et visiter le jardin de thé. Donc.
Trop bien. Eh bien, je me note. Malheureusement, je n'y suis pas allée la semaine dernière. Il va falloir que j'y retourne.
C'est ça.
Merci beaucoup pour cette bonne adresse. Et du coup, dis-moi, quelles sont les spécificités de la culture du thé au Japon?
Alors, quelque chose que je n'ai pas vu dans d'autres pays, c'est le kabuse. Donc, le kabuse, ça veut dire l'ombrage. Et c'est ce qui donne cette saveur particulière au gyokuro, au matcha et au kabuse sencha. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais un petit peu tout à l'heure, dans le théié, donc dans le camélia, dans ses racines, il y a un certain nombre d'acides aminés qui vont se propager dans les branches et les feuilles, et notamment la théanine. Et cette théanine, elle apporte cette saveur umami et sucrée. Et quand cette théanine, elle rentre en contact avec le soleil, en fait, elle se transforme en catéchine. Et les catéchines, ça apporte la saveur un peu plus astringente et amère. Et donc, le fait d'ombrer l'été, les théiers, en fait, ils vont concentrer les feuilles en théanine et donc avec cette saveur umami très particulière.
Que tu décris comme des notes, comment tu décris cette saveur?
C'est ce qu'on retrouve un peu, alors c'est typique à la cuisine asiatique, On va retrouver ça dans les algues aussi, cette saveur un peu d'algues. C'est assez complexe à décrire l'umami, si vous avez bu un gyokuro, vous avez cette saveur un peu sucrée, éiodée, végétale aussi. Souvent, on a un goût d'asperge. Voilà, c'est assez particulier.
Et sucré aussi.
Et sucré, ah oui.
Et on parlait en off-micro de la saveur du matcha, d'un bon matcha de cérémonie donc, qui a été... couvert assez longtemps justement et ensuite avec des feuilles de première récolte. Celui-ci, moi je trouve qu'il y a des notes beurrées, soyeuses, elles sont dues aussi à cette...
Tout à fait. Okay. Alors pour revenir sur la qualité des matchas, c'est pas l'ombrage en fait.
D'accord.
Parce que tous les... En fait le matcha il vient du tencha.
Oui.
Donc c'est une transformation particulière qui n'a pas de roulage parce qu'on va garder les feuilles entières pour pouvoir les broyer, mais qui sont dénervées. Donc on va enlever toutes les nervures de la feuille qui permettront d'ailleurs de faire du kukicha, qui est un thé de branche. Tous les théiers qui permettent de faire le tencha vont être ombrés 4 semaines.
D'accord.
Comme pour les gyokuro. Par contre, c'est la saison.
C'est la saison, ouais.
Donc les matchas de qualité sont ceux de printemps.
Sont ceux de printemps.
Parce qu'après la période de dormance de l'hiver, toute la sève monte dans les feuilles et on a les feuilles et les bourgeons les plus aromatiques.
D'accord.
Et donc ça va être plutôt les matchas d'automne, où les feuilles sont un petit peu moins vigoureuses et ont moins de saveur, qui vont être utilisées pour faire la cuisine ou des choses comme ça.
Et en couleur, on le voit, c'est-à-dire un matcha de cérémonie, il est d'une couleur assez vert sombre. Et un matcha plus de cuisine, il est vert avec plus de jaune dedans.
Mais c'est la période de récolte.
C'est la période de récolte, ok. Super intéressant.
Et c'est pas nécessairement une cueillette à la main d'ailleurs, mais c'est vraiment la saison qui fait qu'au printemps, il y a, comme on le voit partout dans le monde, un bourgeonnement, beaucoup de sève,
une vigueur.
Et donc c'est ce qu'on va retrouver après avec des feuilles très vertes.
Et quels enseignements as-tu pu tirer de cette expérience? Enseignements, j'entends, peut-être autour du thé, mais sinon aussi plus large, évidemment.
Que, comme je le disais tout à l'heure, il y a d'un côté reproduire des étapes mécaniquement. Mm-hmm. Et ça, on peut trouver dans un certain nombre d'ouvrages, les étapes de cuisson, roulage et séchage. Et après, toute la subtilité et tout le travail du maître de thé. Et donc moi, le maître de thé dans la ferme où j'étais, il fait ça. Il a eu, en fait, c'est quelqu'un qui venait pas du monde du thé. Étudiant, il est venu faire des récoltes un été. Il a eu un coup de cœur. Et donc, il s'est lancé là-dedans. Aujourd'hui, il a à peu près mon âge. Donc, ça fait pas mal d'années qu'il est... Et à chaque étape du process, quand on change de machine, je vous expliquais les différentes étapes du roulage, il prend avec sa main dans la machine, il regarde, il sent, il tâte l'humidité. Et en fait, il le fait à chaque fois, sur chaque production qu'on faisait, chaque jour en fait. Et c'est ce travail-là qui demande en fait une vie et qu'on apprend toujours. Et c'est cette sorte d'humilité en fait à essayer de créer un produit qui a du goût, des arômes. Et donc des fois on se dit ça y est, j'ai compris les 4 étapes, je fais du thé, et plus j'avance plus je suis humble par rapport à tous ces savoir-faire en fait.
Bien sûr. Et quand il vérifiait à chaque étape, il changeait un petit peu les étapes suivantes pour s'adapter à ce qu'il voyait
Il adapte les durées déjà de roulage. Donc, s'il estime que c'est bon, il arrête. Et... En fait, c'était pas... Nous, on avait vraiment... Quand je dis que c'est semi-automatisé, on arrêtait la machine, on ouvrait les vannes, le thé tombait, on le récupérait, on le mettait dans l'autre machine. Donc en fait, c'est lui qui décide à un moment donné qu'il faut arrêter et qu'il faut changer.
Oui, et c'est pas minuté, ça sonne pas, il faut le faire.
Il y a des minuteries, mais c'est lui qui a la main sur tout.
D'accord.
Qui règle aussi la température. En fait, par exemple, si la température entre le printemps et l'été ou l'automne n'est pas la même, parce qu'au printemps, c'est très humide quand même. L'été, ça peut être ultra humide, parce qu'en Japon, il y a beaucoup de pluie. À l'automne, c'est plus sec. Donc en fait, le taux d'humidité des feuilles, on va plus ou moins augmenter le temps de cuisson. D'ailleurs, c'est inversé, assez surprenamment. On pourrait penser qu'il y a moins de cuisson vapeur quand les feuilles sont humides, mais ce n'est pas le cas, c'est l'inverse. Donc il ajuste les paramètres tout le temps, parce que en fait, la cueillette, c'est vivant.
Bien sûr.
Et que la météo change. Donc des fois vous avez un jour de pluie, des fois vous avez un jour de soleil, et donc vous n'avez jamais le même thé. C'est ce qui est intéressant quand on boit de l'arracha, c'est que du coup on a vraiment un thé qui est lié à une saison, à un moment de la saison.
Alors qu'en fait le thé qu'on achète dans les grossistes, c'est souvent un blend de différentes fermes, et donc on a moins cette sensation de terroir.
Voilà. Et puis parce que aujourd'hui les grands distributeurs français, les grandes maisons, ce qu'ils veulent, c'est vous proposer toujours le même goût.
Oui, bien sûr. Mais c'est comme pour des vins qui s'exportent beaucoup, c'est aussi, on essaie toujours d'avoir le même goût d'année en année. Ouais.
Même si en France, on sait que la récolte de 2011, elle a été moins bonne que 2012, et on est sensible à ça. On sait qu'il y a des grandes années. Quand vous allez acheter du thé dans votre maison de thé, vous dites pas, tiens, 2017 c'était une bonne récolte, et 2018 le climat était moins beau.
Oui,
on n'a pas
ça.
Cette culture ça.
Mais on n'a pas du tout de culture du thé, on demande même pas quand ça a été récolté. Mais alors, est-ce qu'au Japon on a cette notion là, est-ce qu'on dit cette année était bonne et l'autre était moins bonne?
Oui, et puis aussi dans les process, des fois on sent que le thé restait un peu trop longtemps dans le firing, la dernière machine de séchage, donc il a un peu roasted, un peu grillé. Mais ça se perd. En fait, ils sont un peu aussi désolés, les Japonais, parce que les jeunes générations
sont moins intéressées.
Voilà, et boivent beaucoup de thé en canette.
Ah oui, oui, il y a des distributeurs de thé partout.
Donc le thé est déjà infusé en canette. On perd aussi un peu l'art de l'infusion, qui est aussi importante. Je vous parlais de la théanine et de la catéchine tout à l'heure. En fait, on le retrouve dans la tasse. Si on vous dit qu'il faut infuser un thé vert à 70-75 degrés, c'est pas pour faire genre on connaît. C'est parce que du coup, si vous mettez une eau moins chaude, les composants de théanine vont se libérer de façon plus importante.
D'accord.
Et vous allez avoir cette belle saveur umami sucrée. Si vous mettez un thé vert Gyokuro que vous achetez et que vous mettez une eau à 90, vous allez libérer les composants de catéchine. Donc vous allez amener cette amertume.
C'est l'amertume, ouais.
En fait, c'est de la chimie, quoi. Mais comme toute la nourriture, hein, de toute façon, quand vous cuisinez, bah vous aimez amener différentes notes, et puis bah dans le thé, c'est pareil.
Et c'est pour ça que ça peut être très intéressant, justement, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent faire le test chez eux sur, un sencha, de faire différentes températures, parce qu'on peut découvrir aussi qu'on préfère, je veux dire, tel thé, normalement, être préparé à 70 degrés, peut-être que vous préférez à 80 degrés, ça, ce sera très subjectif, et c'est intéressant d'en faire l'expérience.
Mais c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, la culture du le thé japonais est peu apprécié en France ou en Europe, parce qu'on l'infuse à l'eau chaude.
Bah, bien sûr, à 90 degrés, voire 100.
Et là, on a quelque chose d'assez amer, et les gens disent « Ah, mais le thé japonais, c'est amer ».
Oui.
Et, voilà.
Et non, bah non, bien sûr, moi, j'ai découvert ça, notamment là-bas, en effet. J'étais habituée au mauvais thé vert en sachet, donc déjà d'une qualité atroce. Mais en plus, en effet, je mettais l'eau bouillante dessus de ma bouilloire, et c'était catastrophique. Et évidemment, c'était pas bon, quoi. Heureusement, on en est sorti. C'est vrai que le thé, je trouve... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au Japon, la culture du thé descend, visiblement, d'après ce que tu racontes. Et c'est aussi ce que j'ai entendu dire par ailleurs. Alors qu'en France, la culture du thé monte. C'est de plus en plus à la mode. Il y a beaucoup plus de clients, il y a beaucoup plus de demandes et de connaissances.
Oui, je ne sais pas l'expliquer.
Ouais. Oh bah, c'est intéressant, comme ça évolue. Et donc, par exemple, nous, à la Maison du Mochi, on est beaucoup contactés par des producteurs et des grossistes de thé au Japon qui, parce que leur marché se réduit au Japon, décident de sauter le pas, ce qui est compliqué là-bas, pour exporter, travailler avec des étrangers qui ont un intérêt qui grandit à l'inverse, quoi.
Dans la ferme où j'étais, un des deux fondateurs, Matsu-san, a co-créé l'association du thé japonais, alors j'ai plus le nom en tête exactement, pour faire la promotion justement du thé japonais à l'international. Donc ils organisent des sortes de world tours, Et ils font des étapes dans tous les grands pays pour faire découvrir cette culture du thé japonais, parce qu'ils cherchent effectivement à développer les marchés à l'export. Mais c'est... le Japon, c'est un pays qui a été très fermé très longtemps.
Bien sûr.
Donc,
C'est pas facile.
C'est pas facile de s'ouvrir.
Mais c'est une bonne nouvelle pour nous, en tout cas. Parce qu'on peut accéder à des thés de qualité qui, il y a quelques années, mettons une vingtaine d'années, on ne pouvait pas avoir. Parce que on a l'habitude au Japon de garder les bonnes choses déjà pour soi. Et on a bien raison. Mais du coup, c'est vrai que ça, c'est chouette. On peut maintenant, aujourd'hui, accéder à des thés de bien meilleure qualité qu'auparavant. Mais du coup, maintenant, allons vers ton jardin de thé en Normandie. Quelle variété de théier cultives-tu et quel type de thé produis-tu ?
Alors, on a deux grandes variétés de Camellia sinensis. Donc, le sinensis en botanique, ça veut dire chinois. Donc, le Camellia sinensis, donc le Camellia chinois, et le Camellia sinensis assamica. Et donc, assamica, c'est un théier qui a besoin de climat un peu plus chaud, qu'on va retrouver sous les latitudes, plutôt en Inde, par exemple, et dans les plaines, et qui a des plus grandes feuilles, et qui a plus d'amertume, et donc on va le retrouver plutôt en thé noir.
D'accord.
Et le sinensis, c'est un théier vert à petites feuilles, qu'on trouvait plutôt en Chine, et qui faisait plutôt du thé vert. Après, on peut faire ce qu'on veut avec les deux plantes, mais c'est vrai que par rapport à nos climats français, on a plutôt du sinensis ici, parce que c'est plus résistant.
C'est plus résistant.
C'est rustique à moins 15.
Ah oui.
Donc, oui. On n'a pas besoin d'avoir un
climat. On n'a pas peur. Et parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'un théier, c'est une seule variété. En fait, il y en a plein de différentes.
Évidemment. Après, il y a tous les cultivars. Oui. Donc, c'est un peu comme le vin. Hein.
Les cépages.
Donc, il y a plusieurs histoires. Il y en a... On peut dire que les cultivars, c'est pour le goût. Mais à l'origine, c'était quand même plus pour les récoltes. Parce que imaginez, vous avez des grands champs de thé et tous les jeunes pousses sortent en même temps. Il vous faut énormément de monde pendant des courtes périodes pour récolter à la main tout ça, ou même à la machine. Et donc, à l'origine, le cultivar permettait d'étaler les récoltes.
D'accord.
Et c'est intéressant parce que moi, dans les champs où on avait le Yabukita, qui est le cultivar le plus répandu au Japon. C'est à peu près 70% des champs de thé. Et puis, l'Okumidori, qu'on va retrouver notamment pour les matcha. Et donc, c'était très drôle parce que quand vous regardiez nos champs de thé, on voyait bien les différences de théiers.
Ah oui.
En fait, en fonction de la taille des jeunes pousses. Les Yabukita étaient beaucoup plus précoces. Donc, ils avaient tous ces jeunes petites pousses vertes prêtes à cueillir. Et puis, les Okumidori étaient encore quasiment 100 pousses.
D'accord.
Donc, c'était vraiment pour étaler les récoltes. Et puis après, il y a eu aussi de travailler sur les arômes. Et puis, le cultivar, c'est aussi pour... résistant à certaines maladies, à certains pestes, donc c'est les nuisibles.
Qui sont propres à chaque endroit.
Voilà. Mais comme on fait aussi avec nos légumes en France, enfin, je veux dire, les variétés de tomates et de courgettes qu'on cultive, c'est pas celles qui étaient originellement, je pense.
Ah oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que les raisons pour lesquelles on les crée ne sont pas forcément le goût, malheureusement, mais c'est aussi pour résister. Et pour pouvoir arriver à maturité, évidemment. Et du coup, quel type de thé, toi, fabriques-tu à partir de thé théier ?
Donc, j'ai du thé vert, du thé noir. J'ai essayé de faire du houlong. Alors, le houlong, c'est pas facile.
Ah oui, c'est pas facile.
C'est pas facile.
C'est entre les deux, c'est ça, le houlong ?
C'est ça. C'est un thé semi-oxydé. Donc, juste pour rapidement, donc, on a dit que le thé vert, c'est... En fait, dans la fabrication de thé, on va utiliser un phénomène naturel qui est l'oxydation. Généralement, on ne l'utilise pas en France, notamment pour faire des plantes aromatiques, parce que quand vous avez de la menthe sèche, vous ne voulez pas qu'elle noircisse. Mais pour le thé, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser plus ou moins de temps d'oxydation pour donner la couleur au thé.
Et cette oxydation, on l'obtient comment ?
C'est le cessage de l'air libre et du soleil.
Okay.
C'est
tout donc, à on fait laisse naturel. Juste au soleil
c'est ça.
Les feuilles.
Si vous avez fait l'expérience avec de la menthe que vous avez cueillie dans votre jardin, vous la laissez sur votre table de jardin ou de jour et vous allez voir, elle va noircir.
Oui.
Donc, le thé vert, on va faire une cuisson, ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'on appelle la fixation enzymatique et qui va stopper ce processus naturel d'oxydation. Et le thé noir, on va laisser les feuilles flétrir. Donc après, ça dépend effectivement de l'ensoleillement, de la météo, mais ça peut être entre 8 heures et 24 heures.
D'accord.
On va rouler parce qu'on a toujours des feuilles très dures, donc il faut bien développer les arômes. Et on va laisser s'oxyder à nouveau, pareil, selon les types de récoltes. Si on avait des pousses très tendres ou pas, ça va être plus ou moins long. Et après, du séchage.
Et donc, il faut prévoir qu'il fasse beau sur plusieurs jours quand on...
C'est ça. Pour faire du houlon, pardon, pour faire du thé noir, il faut plusieurs jours.
D'accord.
Voilà. Alors que le thé vert, il se fait dans la journée. Parce qu'on ne veut pas que ça s'oxyde.
Que ça s'oxyde à l'inverse. Voilà.
Et d'ailleurs, petit conseil pour les auditeurs de la maison du Moti. Si vous avez des thés verts, gardez-les au frigo. Ah oui. Parce que si vous les gardez dans vos placards, ils peuvent s'oxyder.
Bien sûr.
Et donc perdre leur bon goût umami et vert. Donc, dans le bas du frigo, dans le bac à légumes, alors pas mélanger avec des oignons ou de l'ail, hein,
non, peut-être
parce que ça prend les odeurs, mais vous conservez vos thés verts au frigo.
Et on me dit aussi qu'il faut conserver le matcha au congélateur. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Alors, au frais, c'est la même chose, parce qu'en plus, le matcha, comme c'est broyé, ça peut s'oxyder
très vite.
Donc, ouais. J'ai entendu ça. Nous, à la ferme, on avait des frigos, mais pas des congélateurs.
D'accord.
Donc, on mettait les matchas dans les frigos.
Moi, je le conserve au congélateur, parce que c'est vrai que dans mon frigo, j'ai peur qu'il prenne des odeurs. Et ça se passe très bien.
Voilà, on peut. Après, il faut le mettre dans une boîte hermétique, de toute façon.
Oui, puis, bien sûr. À l'abri de la lumière aussi, évidemment.
C'est ça.
Ok. Ton activité s'articule autour de la culture et de la transmission. Au quotidien, à quoi ressemblent tes journées?
Elles sont assez variées parce qu'il y a des journées au jardin. Donc là, je mets mes bottes et je fais des trous, je plante.
Et tu mets tes chaussures japonaises?
Pas encore. C'est vrai c'est que plus pour l'été. C'est plus difficile ici. Il y a des choses quand on est là-bas qui semblent évidentes et puis quand on vient là, bon. Mais j'en ai plusieurs paires que j'ai ramenées. Et donc il y a des journées au jardin, donc ça peut être de planter des nouveaux théiers, faire des tailles, des récoltes, donc il y a les périodes de récolte aussi.
Et tu récoltes comment aujourd'hui, à la main?
À la main. Oui. Quand j'ai des visiteurs au jardin, ils récoltent avec moi.
Oui.
Sinon à la main, et après de la transformation.
D'accord.
Et puis il y a des journées aussi qui sont plus de formation, d'échanges,
comme aujourd'hui, de rencontres.
De rencontres, de voyages, parce que du coup, cette année, j'ai beaucoup voyagé. Donc, j'ai fait 3 mois au Japon, j'ai fait 1 mois aux États-Unis.
Aux États-Unis?
Oui, parce que vous avez des champs de thé aux États-Unis, mais il y en a partout dans le monde.
Oui.
Et en Caroline du Sud et en Caroline du Nord.
Wow.
Et j'ai rencontré une femme super, Christine Parks, qui a écrit un livre « Comment faire son jardin de thé ?» et dont le mari est un éminent spécialiste du camélia dans le monde.
Génial.
Et qui vient d'une famille d'horticulteurs, et donc qui cultive des camélias. Et donc, elle a lancé un jardin de camélia sinensis et de thé.
Excellent.
On a fait du thé toutes les deux dans sa maison.
Trop bien.
Ça, c'était super. Et à la Caroline du Sud, qui est un endroit magnifique aussi, qui est à peu près la même latitude que le Japon. Il fait très chaud et humide. C'est la plus grande plantation de thé des États-Unis. Ils ont plusieurs hectares. Et c'est un botaniste français au XVIIIe siècle qui a implanté les premiers théiers là-bas.
D'accord.
C'est drôle.
Ah ouais, c'est drôle. Et toi, typiquement, pour aller rendre visite à ces jardins, tu fais comme pour
Paolo,
tu les contactes. J'aimerais
vous
rendre visite.
J'envoie un petit message, voilà. Et,
okay.
Et en fait, moi, ce que j'ai découvert, c'est que la communauté du thé est mondiale. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, je suis invitée au Brésil, en Chine, un peu partout. Quand vous rencontrez quelqu'un qui aime le thé, vous avez des tonnes de sujets à partager. Et c'est une communauté très ouverte. Et les gens sont ravis de vous faire découvrir ce qu'ils font. Donc là, je reviens d'Inde avant-hier. J'ai passé 10 jours à Darjeeling. J'ai visité 4 plantations. Voilà. Donc tous ces voyages me prennent aussi beaucoup de temps. Mais c'est important aujourd'hui dans la construction de mon savoir-faire.
Bien sûr. Et savoir aussi dans quelle direction tu veux aller. Parce que j'imagine que là, par exemple, tu disais au Japon que tu as découvert plein de manières différentes, qu'il faut que tu fasses des choix aussi. Tu ne peux pas t'évaporer en mille et une manières de faire.
C'est de trouver peut-être une manière à la française.
Ouais.
Hein. Et tu me parlais tout à l'heure de mes types de thé. J'ai fait un thé que j'ai appelé le fermier.
Okay.
Et je m'inspire de la recette du Kyomancha.
D'accord.
Donc c'est assez surprenant parce que c'est des feuilles qui sont entières, marron, avec une couleur chocolat et un goût très toasté, qui n'est pas du tout l'idée qu'on se fait du thé. Du thé japonais ou du thé d'une façon plus générale.
D'accord. Est-ce qu'il a quel goût comme ce que Kyobancha?
On est un peu chocolaté, un peu café, un peu
d'accord.
toasté. C'est un thé vert à la base. Et à la ferme, quand on faisait les tea tours, il y avait un énorme succès. Parce
d'accord.
que c'est proche des saveurs, les Américains, les Canadiens, les Européens. C'est des saveurs qu'on connaît, le café.
Oui.
Et là-bas, c'est un thé, comment dire, c'est pas un thé bas de gamme, mais c'est un thé de tous les
populaire,
jours,
quoi.
Populaire. Ouais. Et donc, c'est assez drôle, en fait. Et moi, j'aime bien cette idée de ne pas être dans l'élitisme. Parfois, en France, notamment, quand on est vraiment dans le thé, on est dans un petit monde un peu élitiste. Et ma vocation, c'est d'élargir, en fait, cette communauté en France et que plus de gens apprécient le thé pour ce que c'est, en fait.
Bien sûr. Bah, par exemple, en termes de thé populaire au Japon, y en a un autre, nous, c'est celui qui marche le plus, à la Maison du Mochi. Et c'était un thé très populaire, moins cher que les Sencha Oat, c'est le Gain Matcha, qui est donc ce thé vert avec du riz grillé. On ajoutait du riz grillé parce que c'était moins cher que le thé. Et donc, c'était un thé populaire. Pour autant, c'est un thé qui est absolument délicieux, avec des notes voilà, de céréales et de grillé qui sont associées au Sencha. Et du coup, souvent, pour les personnes qui découvrent les thés verts, les bons thés verts, c'est une très bonne entrée en matière, puisque voilà, il y a ces notes qui sont rassurantes, gourmandes, mais pas fruitées comme souvent on a dans l'été. Moi, je déteste dès qu'il y a des fruits personnellement. Et donc, c'est super. Il y a ce côté gourmand apporté par le riz grillé et puis le sencha.
Bon, bah, j'ai encore copié. Hein, moi, je fais un thé avec du sarrasin.
Ah, bah super.
Parce que, comme en Normandie, on a des producteurs de sarrasin et je travaille avec une femme qui fait du sarrasin bio. Et donc, je torréfie le sarrasin et je le mélange à mon thé vert.
Ah, bah, c'est super.
Donc, c'est la version normande du Gain Matcha.
Ah, bah, trop bien. Voilà. Vous pourriez l'appeler le Normand chat.
C'est ça. Mais les gens aiment bien parce qu'on retrouve un peu la galette,
bien sûr.
De la crêpe. Et du coup, ça rappelle un peu des saveurs plus connues. Donc oui, je m'inspire beaucoup du Japon.
Bah non, mais c'est aussi pour ça. De toute façon, on ne crée rien à partir de rien. Hein, donc, notre entretien ne va pas tarder à toucher à sa fin. Dernière question, quel est ton projet futur?
Bah là, c'est le jardin parisien.
Oui.
Donc... J'ai beaucoup de soutien, à la fois de la mairie de Paris qui me fait confiance et qui m'accompagne, et puis beaucoup de gens qui m'ont contactée en me disant mais c'est un chouette projet, donc si vous voulez faire un peu de woofing dans le jardin parisien pour planter des théiers, vous êtes les bienvenus. Et donc là, c'est créer tout le jardin et puis tout créer le programme d'animation.
D'accord.
Ce que j'ai découvert au Japon aussi, c'est la cuisine au thé, donc à partir de l'infusion, mais aussi à partir des feuilles fraîches, et donc de faire des tempuras de feuilles de thé, dans l'omelette, ça marche très bien et tout ça. Donc du coup, je pense que je vais faire les déjeuners au jardin sur l'été et de faire un repas au thé en fait.
Est-ce que tu pourrais me donner les coordonnées grâce auxquelles les personnes intéressées pourront te contacter, notamment pour le woofing? Woofing, c'est venir quelques mois en stage, c'est ça
Alors là, ce sera d'une journée plutôt.
Oui, c'est ça. Okay.
C'est venir en tant que bénévole dans des fermes pour aider à cultiver.
Oh bah super, je te prendrai ces coordonnées-là.
Et parce qu'au Japon aussi, dans les titours, on cuisinait le bubuzuke. Pas si tu as eu l'occasion d'en goûter.
Non.
Donc le bubuzuke ou ochazuke. Bubu, à nouveau, ça veut dire thé en dialecte de Kyoto. Et c'est un repas au thé, c'est-à-dire que c'est du riz et dedans vous versez du thé vert. Et moi, je cuisinais aussi le tsukinami, qui est en fait un condiment à base de feuilles de thé de gyokuro et qu'on mélange avec du sucre, de la sauce soja, des graines de sésame. Et en fait, on met ça sur le thé qui baigne dans du thé vert.
D'accord.
Voilà, donc j'ai envie de faire partager ça aux Parisiens et aux Franciliens.
Bah j'ai hâte de découvrir moi-même. Mais donc, passons à notre questionnaire de la fin. Quel est ton plat japonais salé préféré?
Voilà, là, j'ai un peu vendu la mèche. C'est le bubuzuke.
Le bubuzuke. Et donc, je vais l'écrire B-U-B-U...
Z-U-K-E.
Ok, très bien. Quelle est la douceur japonaise que tu aimes par-dessus tout?
Alors, moi, j'ai adoré les sakura mochi.
Sakura mochi.
C'est...
Sakura mochi.
Sakura. Oui, pardon. Sakura mochi. Et donc, ils sont entourés d'une feuille de cerisier acidulée.
Ouais.
Voilà. Et j'ai adoré le côté sucré et acidulé.
Ouais. Et saumurée, elle est salée, cette feuille.
Oui, c'est ça.
Oui, je suis d'accord, elle est complètement folle, cette pâtisserie.
Vous arrivez à la
fait.
Refaire
ouais,
aussi
ouais, tout à fait.
Ah, super.
Ouais, ouais. Quel est ton goût ou parfum préféré?
Bah, l'umami du gyokuro.
Ouais. Ça paraît très clair suite à l'interview. si tu étais un goût ou un parfum japonais, quel serait-il?
L'algue nori.
Ok.
J'aime bien le goût iodé.
Et pourquoi par rapport à toi? C'est plus un parfum que tu aimes en plus, C'est pour ça que tu l'as choisi.
Oui, et puis alors, je suis un signe d'eau, j'habite à 3 km du bord de mer, enfin ma maison est même à 900 mètres du bord de mer, l'eau pour moi c'est important, et donc le côté iodé,
oui,
j'adore me promener l'hiver sur les plages, j'aime bien ces embruns, j'aime bien, donc oui,
pour l'algue. L'algue-nori, très bien, très bonne réponse. Quelle est ta saison préférée ?
Bah, le printemps.
Le printemps.
Le printemps avec les cerisiers en fleurs. Et les jeunes pousses de thé, les first flush.
C'est vraiment le meilleur du thé au printemps, quand même.
Ah oui, ouais. Quel que soit le pays. Hein.
C'est bon à savoir. aurais-tu une bonne adresse autour du Japon en France ?
Bah, moi, je vais souvent chez Aki, rue Sainte-Anne.
D'accord.
Voilà, parce que j'habite pas très loin, donc c'est un petit peu ma cantine pour aller boire un thé, manger.
Une petite douceur.
Une douceur ou salée.
Et aurais-tu une bonne adresse au Japon ?
Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est Kosanji.
Ah, super. Eh bien, je la note, je l'ai bien noté. Et ça a l'air d'être vraiment une super adresse. Quel est ton mot japonais préféré ?
Alors, j'ai parlé de Ikigai aussi tout à l'heure. C'est trouver sa raison d'être. Et je crois que c'est ce que j'ai fait avec le thé. Ça m'épanouit énormément. Ça a ouvert mes rencontres, ma vision du monde, je suis radieuse et ravie. Et j'espère que... Ikigai, on le retrouve notamment dans une île au Japon, il y a beaucoup de centenaires, et on explique que cette philosophie de vie, elle vous permet de continuer à travailler en prenant du plaisir, et donc à vivre de façon pas éternelle, mais en tout cas assez longtemps, donc... Je me le souhaite.
Mais on entend bien, en tout cas, cette passion et ce plaisir dans cet entretien. Enfin, quelle personnalité ayant une relation privilégiée avec le Japon souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
Anne-Sophie Pic.
D'accord.
Qui est bien connue avec ses restaurants et qui, je crois, s'inspire beaucoup du Japon.
Eh bien, dis donc, c'est une très belle invitée, en effet. Tu l'as rencontrée toi-même ?
Non.
Non.
Pas eu ce bonheur.
Oui, moi non
j'espère l'écouter bientôt sur le podcast de la Maison du Motif.
Je croise les doigts. Notre entretien touche à sa fin. Un grand merci Gaëlle Rousseau d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci à toi pour ton accueil.
Et un grand merci à vous aussi, auditeurs, pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcasts, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite.